Ce que j'avais à cœur de méditer avec vous ce matin fait partie des toutes dernières instructions que Moïse a adressées à son peuple. Alors Moïse, inutile de vous rappeler que c'est une figure tout à fait extraordinaire dans la fondation de la révélation de Dieu. Pour les Juifs en particulier, Moïse est vraiment le prophète le plus important. Et alors, Moïse a accompagné le peuple d'Israël pendant toute la traversée du désert, 40 ans. Puis voilà, il se trouve devant le Jourdain, il se trouve devant le pays promis. C'est une nouvelle étape de vie qui s'offre à lui. Moïse sait qu'il ne va pas traverser le Jourdain et il profite de confier à son peuple, en fait, son testament, si on peut l'appeler ainsi, confier à son peuple ses paroles d'ultime, qui sont tellement importantes à inscrire dans sa mémoire. Et en particulier, nous trouvons dans le livre du Deutéronome une répétition du Décalogue. Alors toutes les paroles de Moïse ont été rassemblées dans le livre du Deutéronome, comme je viens de vous le dire. Alors il y en a une qui m'a frappé pour ce matin, c'est au chapitre 8 de Deutéronome, et je vous en lis les premiers versets. Souviens-toi. Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que le Seigneur ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements du Seigneur ton Dieu pour marcher dans ses voies, pour le craindre. Car le Seigneur ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, pays d'olivier, de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et les montagnes desquelles tu tireras le bronze. Magistral. Moi, je trouve magnifique ce texte. Et de le relire encore une fois devant vous m'impressionne beaucoup. Et il comporte une puissance, une énergie de vie qui est tout à fait extraordinaire. Alors mon défi, c'est de vous la communiquer dans les quelques minutes qui vont venir. Donc nous sommes le 29 décembre, à 2 jours de la nouvelle année. Nous sommes dans le cadre des fêtes de fin d'année. Pour les uns, c'était une période heureuse. Pour d'autres, peut-être un temps difficile. J'ai souvent entendu des gens qui disent « vivement que ce soit fini ». Donc à chacun ses raisons, à chacun ses raisons d'aimer ou de ne pas aimer ce temps de fête. Mais au-delà de nos appréciations personnelles, je crois que ces fêtes sont réellement une chance, un cadeau que Dieu nous donne, le cadeau de ne pas nous laisser engloutir par le train-train quotidien, par la banalité des activités quotidiennes. Parce qu'on sait très bien que ce train-train a tendance à étouffer finalement notre ouverture à Dieu et notre sensibilité au message que le Seigneur veut nous adresser. Donc les fêtes permettent de marquer un temps d'arrêt et c'est pourquoi Dieu a voulu jalonner toute l'histoire d'Israël d'un certain nombre de fêtes. Alors aujourd'hui, la parole de Moïse, c'est de dire « souviens-toi ». Alors qu'est-ce que ça signifie quand Dieu nous dit « souviens-toi » ? Alors, tout de suite écartons deux fausses interprétations. Ce souvenir, ça n'a rien à voir avec feuilleter un album de photos. Oui, les albums de photos, c'est sympa. Et regarde comme j'étais quand j'étais petit. Regarde la tante Agathe dans le jardin. Regarde, voilà. C'est toujours sympa, ça nourrit nos rencontres. Mais c'est pas ça que Dieu veut nous dire. De même, quand Dieu nous dit « Souviens-toi », il nous invite pas d'aller au musée. Il y a des magnifiques musées par Lausanne. J'ai juste franchi la porte du musée de la main dernièrement. J'ai trouvé extraordinaire. Donc les musées sont magnifiques, allez-y, mais c'est pas ce que Dieu veut nous dire. Souviens-toi, et vous l'avez bien entendu dans le texte, c'est en fait place-toi devant Dieu. Observe, comprends ta vie sous son regard. Comprends ta vie pour essayer de discerner quel est le fondement réel de ta vie. Parce que voilà, dans l'année qui s'est écoulée, il s'est passé tellement de choses dans ta vie. Tellement d'activités, tellement de transactions, tellement de... Oui, voilà, c'est ta vie, tu l'as construite ta vie. Mais finalement, quel est l'essentiel? Quel est le noyau de ton existence? Souviens-toi, essaye de quitter la surface des choses pour rejoindre le noyau de ton existence. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous citer une citation d'une jeune femme, Etty Ilsoum, qui est une juive, qui a connu le drame de la Shoah dans son pays, les Pays-Bas, et qui a mis par écrit ses pensées et qui nous a livré des pensées qui sont, à mon avis, des bijoux qui ont une valeur éternelle. Alors Etty Ilsoum nous dit ceci, « Il y a en moi un puits très profond. Dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais le plus souvent, des pierres et des gravats obstruent le puits, et Dieu est enseveli. Alors, il me faut le mettre à jour. » Je vous laisse méditer cette parole. Donc, ce souvenir, c'est recueillir devant Dieu les éléments de notre vie. Alors, de nouveau, je l'ai dit, des éléments heureux ou malheureux, des éléments sombres ou lumineux. C'est des éléments que nous avons besoin, qui est nécessaire de recueillir devant Dieu pour donner une cohérence à notre vie. Les rassembler pour que Dieu leur donne leur juste place dans notre mémoire. Alors, certains de ces événements devront être valorisés comme étant des éléments porteurs de fruits et de sens. D'autres vont être simplement mis de côté parce qu'ils ne méritent pas de laisser des traces. Mais de quoi faut-il se souvenir? Alors, vous l'avez repéré dans la lecture du texte, je n'y reviendrai pas. La route parcourue, Dieu qui dans cette route nous a mis dans la pauvreté, il nous a fait avoir faim, ça mériterait une réflexion cela, mais spontanément il a donné à manger et il a permis que ton manteau ne se s'use pas sur toi et tu vas rentrer dans un beau pays. Placer notre vie sous le regard de Dieu, j'imagine pour certains ça pourrait faire peur. Ça pourrait faire peur si on se représente Dieu comme quelqu'un de sévère, un justicier condamnant, un justicier qui nous culpabilise. Et là, c'est une image qui est très courante en fait, qui est spontanée dans l'esprit humain. Une image qui est naturelle, j'allais dire, mais que Dieu a bien soin de corriger. Dans les versets ou dans les textes qui précèdent celui que je médite, mais qui sont toujours dans ce même contexte, Moïse a le soin de rapporter ceci, écoutez bien, « Le Seigneur t'a porté comme un père porte son fils. » Alors là, pour un geste de tendresse, c'est pas rien. Et un peu plus loin, Moïse dit ceci, « Le Seigneur ton Dieu est compatissant, miséricordieux et bienveillant. » Donc, lorsqu'on a posé ces réalités comme étant vraiment les fondements de notre compréhension de Dieu, nous pouvons entrer dans la dynamique du « souviens-toi ». Alors, pour conclure, « souviens-toi », qu'est-ce que c'est? D'abord, arrache-toi à tes rêves. Arrache-toi à ton monde imaginaire. Le monde que tu te construis souvent par nécessité, pour te protéger du monde réel ambiant qui te fait mal. Mais n'empêche, ce n'est pas des rêves et ce n'est pas un monde imaginaire qui va t'aider à cheminer. Souviens-toi, c'est regarder ton passé. Est-ce que ton passé est marqué de gestes libérateurs, de gestes qui t'ont permis de construire un espace de liberté? Ou au contraire, est-ce que ton passé t'a progressivement enfermé dans des conditionnements ou des murailles emprisonnantes? Souviens-toi, c'est invité à te réveiller de tes cécités. Considère qui tu es réellement et non pas seulement les représentations idéales que tu fais de toi. Considère les autres à leur juste valeur, puis mets Dieu à sa juste place. Souviens-toi, c'est aussi nous inviter à cesser d'idéaliser le passé. On dit toujours « c'était tellement mieux avant ». Ah, en Égypte, on mangeait bien. Ah, en Égypte, c'était le farniente. Tout était le bonheur, c'était tellement mieux avant. Mais symétriquement, souviens-toi, c'est aussi cesser d'angoisser face à l'avenir. Ne vous inquiétez pas du lendemain, dit Jésus, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, souviens-toi, c'est regarder lucidement ton histoire de vie. J'étais très impressionné lorsque j'ai découvert juste au passage d'une information que Macron, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, lorsqu'il était en Côte d'Ivoire, a déclaré que le colonialisme était une erreur, une faute. Ben, chapeau. Chapeau pour avoir le courage, la lucidité, avec la posture qui est la sienne, et surtout l'environnement de ses prédécesseurs qui n'ont pas osé faire ce pas de courage. Bravo pour lui, qui a osé mettre un mot juste sur une situation dramatique, ce qui n'excuse pas tout, ce qui ne justifie pas tout, mais vous savez, il y a ces mots justes qui font du bien d'entendre ou de poser. Oui, je reconnais telle et telle erreur, ces étapes nécessaires pour grandir dans la foi. Mais souviens-toi, c'est aussi se souvenir que nous avons été pardonnés. S'il est bon de repérer les erreurs, il est capital aussi de repérer le pardon qui a été reçu. Oublier ce qui a été pardonné, c'est-à-dire nous dégager de nos introspections mortifères et de nos culpabilités morbides. Même s'il y a eu des fautes, des erreurs, tu peux les oublier, tu peux ne pas te laisser engloutir par tes fautes passées, parce que le Seigneur a oublié et lui-même ne s'en souvient plus. Lui-même ne s'en souvient plus, donc il n'y a aucune raison que tu te souviennes de choses dont Dieu ne se souvient pas. « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Voilà. À ce stade, on vous invite à prendre vos petits billets. Et sur vos petits 10 billets, vous pouvez inscrire quelque chose du souvenir qui vous est monté à l'esprit pendant que Dieu vous parlait. Un événement, un souvenir fort qui a fait partie de votre marche dans le désert. Peut-être une halte bienfaisante. Voilà, nous avons visité notre histoire de vie, notre passé. Nous avons pu inscrire quelques petites traces sur les papiers que nous avons devant nous. Et maintenant, nous allons tourner nos regards sur ce pays promis qui est là devant nous. Parce que le but du souvenir n'est pas de nous y figer dans notre histoire, dans nos souvenirs, encore moins retourner en arrière, mais bien entrer dans ce pays promis. Alors, souviens-toi de la route que le Seigneur, ton Dieu, t'a fait parcourir. Non, mais c'est remarquable. La route que ton Dieu t'a fait parcourir, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que Dieu est un nomade. Ah, Dieu est un nomade. Et c'est extrêmement important, cela. parce que c'est à l'inverse de tous les autres dieux, les divinités païennes, qui, elles, avaient des temples, et on les plaçait dans les temples. Vous aviez la statue d'Apollon, la statue de Zeus, etc., dans les nombreux temples qui jalonnaient tout l'Empire romain. Et puis, ils étaient bien là, établis. Notre Dieu, non, est un Dieu nomade. Et alors, nous rêvons toujours d'une belle oasis pour y couler des jours heureux à l'ombre des palmiers, alors que Dieu, lui, est un marcheur qui nous arrache à nos pesanteurs et à l'envie de nous installer. Et les routes de Dieu sont surprenantes. Vous savez, quand Israël est sorti d'Égypte, il aurait pu rejoindre Canaan en 15 jours. Égypte, Canaan, c'est 15 jours, même pour un peuple de quelques dizaines de milliers de personnes, ça aurait été amplement suffisant, 15 jours le long de la côte. C'est rapide, c'est efficace, c'est logique, c'est performant, c'est magnifique. Eh bien non, Dieu a choisi la voie lente. Dieu n'a pas choisi le TGV, Dieu a choisi le train local, la voie lente, la voie illogique, la voie curieuse, la voie jalonnée et semée d'embûches. Dieu a imposé à Israël de faire le détour par le Sinaï. Et à votre avis, pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il imposé à Israël de faire le détour par le Sinaï? Vous avez une réponse à cela? Pourquoi? Non mais, Israël a vécu quelque chose d'extraordinaire en sortant d'Égypte. Qu'est-ce que Israël a vécu en sortant d'Égypte? Eh bien, c'est tous les miracles que Dieu a manifestés par la main de Moïse contre Pharaon. Je vous énumère pas les 10 plaies, vous les connaissez. Mais le miracle ultime qui a été la mise à mort des premiers-nés, et cette mise à mort des premiers-nés a vraiment dramatique pour le peuple d'Égypte, a desserré la main de Pharaon pour laisser Israël partir. Puis on sait très bien que la mise à mort des premiers-nés, le sang mis sur les linteaux, ce sang symbolise la Pâque, symbolise la mort de Jésus qui nous protège de l'ange destructeur. Nous sommes vraiment dans la fête de Pâques. Le départ d'Égypte, c'est la résurrection. Pourquoi a-t-il fallu passer par le Sinaï? Après le départ d'Égypte, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la traversée de la mer Rouge. Et la traversée de la mer Rouge, qu'est-ce que c'est pour nous? Quel est l'équivalent? Si j'ai dit que la sortie d'Égypte, la Pâque, c'était en fait l'équivalent, oui, de la résurrection de la mort, la résurrection de Jésus que nous reconnaissons, qui est finalement notre conversion. La traversée de la mer Rouge, c'est quoi? Notre baptême. Mais bien sûr, nous sommes convertis en sortant d'Égypte. Nous avons été baptisés au travers de la mer Rouge, quoi de plus? Quoi de plus? C'est tout logique de prendre le chemin le plus court. Et c'est pas ce que Dieu a voulu. Pourquoi Dieu a conduit son peuple au Sinaï? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que ni l'expérience de la conversion, ni l'expérience du baptême ne fondent vraiment la réalité communautaire. Ben oui. C'est réellement au Sinaï qu'Israël est devenu un peuple. C'est au Sinaï qu'Israël est devenu mon peuple aux yeux de Dieu. C'est au travers de toutes ses ordonnances, au travers de tout son enseignement, au travers du don du décalogue, des 10 paroles, c'est au travers de l'alliance du Sinaï qu'Israël est vraiment devenu un peuple, mon peuple pour le Seigneur. Alors vous comprenez pourquoi il a fallu faire tout ce détour après les expériences originelles et fondatrices. 40 ans pour apprendre à marcher avec Dieu, 40 ans pour apprendre à faire confiance, pour aiguiser notre cœur et notre oreille intérieure. C'est vraiment au Sinaï qu'Israël est devenu le peuple de Dieu. Eh bien, pour nous, c'est bien la même chose. Pour nous, après notre sortie d'Égypte, nous sommes invités à naître, à faire naître en nous notre identité de peuple de Dieu, de chrétiens qui notre adhésion à une communauté, à la communauté chrétienne, christienne, qui suit le Christ. Et ainsi, pour nous, chaque étape de notre vie est une naissance. J'ai bien aimé ce slogan que l'on m'avait transmis une fois. Vivre, c'est naître lentement. Vivre, c'est naître lentement. Vous vous sentez en train de naître? Moi, je crois qu'il n'y a pas d'âge. En tout cas, nous, à 75-80 ans, on découvre que c'est encore le temps de naître et de naître lentement. Chaque étape de nos journées est une naissance. Une naissance à l'aujourd'hui de Dieu. Et alors, naître à l'aujourd'hui de Dieu, c'est génial. Mais en même temps, vous le savez bien, naître, ça implique d'accepter sa fragilité, sa vulnérabilité. Naître, c'est peut-être vivre cette parole énigmatique que Jésus adresse à ses disciples. Quiconque ne deviendra pas un enfant ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, c'est ce que Dieu a fait vivre à son peuple. Et puis, vous l'avez entendu, eh bien, le Seigneur t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim, il t'a nourri de la manne, ton manteau ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Et là, je ne résiste pas à vous citer de nouveau une citation d'Eti Ilsoum. Je rappelle, c'est une femme qui était dans les camps de concentration, enfin qui est morte à Auschwitz d'ailleurs, mais avant elle était dans les camps de transit à Westerbork en particulier, en Hollande. Et elle écrit ceci de bouleversant. « C'est mon sentiment perpétuel et constant, celui d'être dans tes bras, mon Dieu, protégé, abrité, imprégné d'un sentiment d'éternité, comme si le moindre de mes actes, la parole la plus anodine, s'inscrivait sur un fond de grandeur. Je ne me sens pas sous les griffes de personne, je me sens simplement dans les bras de Dieu. » Pour une femme qui est dans un camp de concentration, ça a du poids, des paroles comme cela. Et c'est le but du projet de Dieu. Tu mangeras à satiété et tu béniras le Seigneur ton Dieu dans le bon pays qu'il t'a donné. Souviens-toi de Jésus-Christ, écrira l'apôtre Paul à son disciple de Timothée. Eh bien, chers amis, vous le savez, c'est réellement dans le souvenir actualisé Jésus-Christ. Hein, on n'est vraiment pas dans un musée. Souviens-toi de Jésus-Christ, c'est dans ce souvenir que tu vas trouver le bon pays de lait, de miel qui t'est promis. Et nous souvenir de Jésus-Christ, c'est laisser la parole du Nazaréen nous saisir dans notre existence et nous mettre en marche dans la même trajectoire que celle de Jésus. Nous souvenir de Jésus, c'est annoncer que sa mort et sa résurrection ouvrent un sens pour nous et que sa mort et sa résurrection orientent notre façon de vivre aujourd'hui. Donc, pour résumer, le meilleur est devant. Alors quand on dit ça, oui, il faut une solide dose de foi pour l'affirmer, surtout lorsqu'on entre dans l'existence des Tamalous. Le meilleur est devant. Mais c'est vrai, si nous ouvrons les yeux de la foi, nous savons que le meilleur est devant. Et pourquoi pouvons-nous dire le meilleur est devant? Parce qu'en fait, le devant, ce qui est devant nous, l'avenir, eh bien, elle n'a qu'un mot, qu'une identité. L'avenir, c'est Dieu. L'avenir, c'est Dieu. On n'est jamais sous les griffes de personne tant qu'on est dans tes bras. « Mon Dieu », écrivait Eti Ilsoum. Alors, c'est alors que l'invitation au souvenir devient un puissant encouragement dans lequel nous pouvons puiser la force nécessaire pour notre marche quotidienne. Notre marche quotidienne, jusqu'à ce qu'au moment où nous n'aurons plus besoin de nous souvenir, lorsque tout nous sera donné dans la plénitude de la présence de Dieu, lorsque Dieu sera toutes en tous. Alors, après ce second temps, je vous invite à écrire sur votre petit billet. Donc vous avez écrit quelques expériences du passé. Maintenant, vous allez pouvoir écrire votre présent et la perspective de l'avenir. Et en particulier, vous allez écrire là où vous avez trouvé des sources d'eau, où vous avez trouvé un champ d'oliviers, où vous avez trouvé des figuiers, à l'image du texte que nous lisons. Repérez tout ce que Dieu a fait pour vous. Repérez quand Dieu a évité que votre pied n'enfle. Repérez quand Dieu vous a nourri de la manne. Voilà, ça fait toujours du bien d'écrire et de dire notre confiance que ce que Dieu a fait, il le répétera.